une flambée. C'est le sens de l'inflation, une flambée. Mais pas une flambée des prix, mais une flambée de bonnes paroles. De paroles de vœux, de bonheur, des souhaits de réussite, de prospérité, de santé, etc. Tout de bon, disent les Suisses, nos amis Suisses. Plein de bonnes choses, dit-on, disent les autres. Et moi, j'ai envie de dire, c'est gentil, mais arrêtez. Non, je t'ai plu. C'est pour ça que j'ai pas dit tous mes vœux, là, au début du culte, parce que je savais ce que j'allais dire après. Alors, j'aime bien les vœux, hein, je vais pas cracher dans la soupe ou faire la grimace, hein, mais j'aime recevoir de bons vœux, et c'est une bonne habitude que nous avons, ça montre que l'on pense aux autres, qu'on souhaite de belles choses pour l'autre. Mais l'impression générale, c'est que on semble en rajouter un petit peu quand même. Et on peut se demander avec raison quel est le poids de ces paroles. Ne sont-elles pas juste des paroles en l'air ? Est-ce qu'elles engagent cette parole ? Est-ce qu'elle engage celui qui les prononce ou qui la prononce ? Et on pourrait peut-être comparer ces vœux de début d'année aux promesses électorales. Vous savez ce qu'on dit des promesses électorales ? Elles n'engagent que ceux qui y croient et non pas ceux qui les prononcent. Alors, dans quelle mesure ces paroles que nous lançons nous engagent ? Est-ce qu'elle ne ressemble pas un peu à des paroles en l'air, l'air du temps ? Et nous avons besoin, je pense, de retrouver des paroles vraies, des paroles solides qui sont dites par quelqu'un qui l'est tout autant, solide et vrai. Des paroles sur lesquelles on peut appuyer sa vie, des paroles qui sont dignes de foi, des paroles de quelqu'un qui est celui qui est... qui était, qui est et qui sera, comme ma collègue d'un jour l'a annoncé tout à l'heure. Et j'aimerais simplement partager avec vous quelques paroles de Dieu pour l'année 2024, des promesses de Dieu, des promesses à saisir, comme un logement à saisir ou maison à saisir, mais promesses à saisir par la foi, évidemment, pour 2024. Et voilà mon petit montage, voilà. 2024, parole en l'air, bla 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 bla, parole, 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 ou des promesses à saisir. Et je commencerai par le champion, toute catégorie confondue de la promesse. Et j'ai nommé Abraham, et un homme qui a impressionné des générations par sa capacité à vivre sur les promesses de Dieu, qui a impressionné le philosophe Kierkegaard, qui était danois, qui était chrétien, l'existentialisme chrétien, Kierkegaard, qui a parlé du saut de la foi d'Abraham, un saut dans 70 000 mètres de profondeur. Je ne sais pas pourquoi 70 000, il faudrait aller revoir les livres. Mais Abraham a impressionné Kierkegaard, et il a impressionné aussi Paul de Tarse, à l'époque, qui écrit dans la lettre aux Romains cette fameuse ces paroles qui commencent par cette fameuse expression en parlant d'Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut Abraham et devint ainsi père d'un grand nombre de nations selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance, et sans faiblir dans la foi. Il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais, face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Et on ne le sent pas trop en français, mais... dans l'original, en grec, ce verset est incroyablement dynamique. On y parle d'une foi qui ne serait pas statique, mais complètement en mouvement. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament ont inventé, pour parler de la foi chrétienne et celle d'Abraham, une nouvelle expression inconnue du grand public de l'époque, il ne s'agit pas, cette expression, c'est pas croire en, avec le datif, le lieu, mais croire vers, avec l'accusatif, le mouvement. Je crois vers, comme un élan. Et dans notre texte, enfin dans ce texte de Romains 4, par deux fois, vers la promesse, il ne douta point. Je parle de l'original. Vers la promesse, il ne douta point. Et au verset 18 que vous avez entendu seulement, il crut vers le fait d'être père d'une grande nation. Il croit vers Abraham, le mouvement. Et alors qu'Abraham n'avait pas trop d'éléments tangibles pour croire en la promesse d'une grande descendance, son épouse et lui-même avaient de loin passé l'âge, comme on dit, mais il prit son élan pour croire vers la promesse de Dieu, pour prendre Dieu au mot. Et d'ailleurs, quelqu'un le disait très bien, paf, la foi, c'est prendre Dieu au mot de sa promesse. Et dans la Bible, les chrétiens, moi, vous, nous sommes appelés, qu'est-ce qu'on est appelés ? Les enfants de la promesse. Parce que nous héritons de la même promesse faite à Abraham, mais nous sommes aussi appelés à vivre de la même manière qu'Abraham, avec la même foi qui prend Dieu au mot de ses promesses. Et en ce début d'année 2024, je voulais vous donner trois promesses que Dieu a faites pour nous. Il y en a beaucoup d'autres, des promesses, mais j'ai choisi en toute objectivité, non, en toute subjectivité. Voilà des promesses pour nous. Et la première promesse à saisir concerne le domaine des épreuves qui font partie de la vie. Et Yvonne l'a dit aussi, en 2024, il y en aura. Il y aura des épreuves. On ne connaît pas l'intensité de ces épreuves, mais il y a une promesse de Dieu qui a été faite par l'intermédiaire de Paul, écrivain, inspiré par Dieu. Et il dit, dans l'épître, la lettre qu'il adresse aux chrétiens qui sont à Corinthe, en Grèce, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera une issue pour que vous puissiez la supporter. » Voilà une promesse. Et il y a deux aspects liés à cette promesse, de l'épreuve. D'abord que Dieu promet que l'épreuve ne sera pas au-dessus de nos forces. Et vous avez l'image là d'un pauvre âne pris en flagrant délit de surcharge. Mais c'est un homme, c'est un âne. Et nous sommes des hommes et des femmes entre les mains de Dieu qui connaît nos capacités et nos limites. Et justement, en ce qui concerne nos limites, on pourrait se poser la question, quelles sont les limites du supportable pour moi ? On n'en sait rien. Personne ne le sait. Et d'ailleurs, c'est heureux que nous ne le sachions pas, parce que ce serait tellement angoissant de connaître nos limites. Mais Dieu les connaît, et il ne permettra pas que ces limites soient dépassées. Que nous soyons dans une épreuve qui serait au-delà de nos forces. Pourtant, il nous semble parfois que ce qu'on voit autour de soi est insupportable. Si on avait dit à Corrie ten Boom, cette jeune Hollandaise, qu'elle irait au camp de concentration de Ravensbrück parce que sa famille a caché des Juifs, qu'elle y perdrait ses parents, son père, sa mère, son frère, sa sœur. Elle aurait dit, mais c'est insupportable. Mais Corrie ten Boom n'a pas été anéantie par l'enfer de Ravensbrück. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Dieu en enfer ». Et au contraire, elle a puisé dans cette épreuve une force considérable. Et elle a eu depuis un ministère d'encouragement à travers toute l'Europe absolument incroyable. Il a fallu du temps. Mais cette épreuve n'était manifestement pas au-delà de ses forces. Et puis, il y a un deuxième aspect à ce verset biblique de 1 Corinthiens, c'est que Dieu promet une issue à l'épreuve. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Et je ne sais pas si, en ce dimanche matin, vous êtes perspicace, mais il me semble qu'il y a un petit problème dans la phrase. Si Dieu donne une issue à l'épreuve, pourquoi faudrait-il la supporter puisqu'on en serait sorti? Non? S'agit-il vraiment alors d'une sortie d'épreuve? Eh bien, non, parce que plus qu'une sortie de l'épreuve, Paul veut exprimer cette vérité de la part de Dieu, que Dieu promet en fait la patience et la persévérance dans l'épreuve. Et c'est cela qui constitue justement la sortie de l'épreuve. Et on pourrait traduire, avec l'épreuve, il donnera l'issue qui consiste à la supporter. L'issue de l'épreuve, c'est de pouvoir la supporter avec patience, avec persévérance. C'est pas de voir l'épreuve disparaître comme ça par enchantement, mais c'est avoir une capacité accrue à la supporter. Et c'est cette promesse que Dieu nous fait pour 2024. Il y aura des épreuves, mais il va donner cette patience et cette persévérance pour la supporter, comme Corrie ten Boom. Parce qu'il est là. Parce qu'il est, il était là. Parce qu'il est là. Parce qu'il sera là. Alors, vous me direz que ça ne change pas grand-chose au niveau de l'épreuve, et vous auriez raison, l'épreuve continue, mais cela change beaucoup au niveau de mon attitude personnelle, ma vie personnelle face à l'épreuve, et cela change énormément par rapport à ma paix, par rapport à l'épreuve, dans cette épreuve, ou dans ces épreuves de 2024. Si Dieu promet que rien ne sera au-delà de mes forces, et qu'en plus il me donnera la force en temps voulu pour pouvoir la supporter, je pourrai vivre une paix que le monde ne connaît pas. Parce qu'il me semble que bien souvent, on vit l'angoisse de l'épreuve par anticipation. Si demain il m'arrive quelque chose, je ne le supporterai pas. Ou par procuration, ou par projection, s'il m'arrivait la même chose que celui qui leur arrive, je ne le supporterais pas. Mais avec cette promesse de 1 Corinthiens 10, 13, 10, 12, je peux regarder la vie avec la paix que Dieu me donne. Une promesse à vivre dans la paix, une promesse à saisir par la foi. Il y a une deuxième promesse à vivre, qui concerne seulement 2-3 personnes parmi nous, ceux qui ont quelques soucis au travail, ceux qui ont quelques soucis d'argent, ceux qui ont des problèmes avec l'administration ou des problèmes avec la famille, des gens inquiets pour leur avenir à court, moyen et long terme. Et donc, juste 2-3 personnes qui s'inquiètent de cela. C'est une promesse qui concerne l'inquiétude, et c'est Pierre qui s'en fait le messager, Pierre l'apôtre, qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et qui pourrait dire, en ce beau matin du 7 janvier 2024, que cette promesse ne le concerne pas, qu'il n'en a pas besoin. Et je voulais raconter l'anecdote qu'Yvonne a racontée tout à l'heure, parce qu'elle me l'a dit, quand elle regarde son calendrier, notre calendrier commun des 3 prochains mois ou de l'année 2024, mais je crois que c'était les 3 prochains mois, elle a poussé un grand sourire, et elle, soupir, et pas de sourire, et elle est venue m'en faire part. C'est amusant, entre guillemets, parce que Yvonne, c'est pas l'inquiète du couple, c'est moi l'inquiète. C'est moi l'angoissé. Mais même Yvonne, en regardant 2024, bon, qui n'a pas besoin de cette promesse que Dieu nous fait à travers son apôtre, Pierre? Un jour, quelqu'un m'a dit que ses inquiétudes et ses angoisses l'enveloppaient, l'entouraient, l'encerclaient, l'étouffaient. Et c'est intéressant de voir que quand Dieu dit par Pierre de nous décharger, il choisit un verbe qu'il utilise autre part pour un manteau ou un vêtement ou un pardessus. Et vous savez, dans les restos un peu chic, enfin je crois, quelqu'un vient, enfin le serveur vient et vous demande s'il peut vous débarrasser, pas de votre porte-monnaie, mais de votre pardessus, de votre manteau. Et il vous prend par les épaules et on aime bien, on tient, et c'est sympa. Est-ce que je peux vous débarrasser ? C'est le même verbe qu'il utilise pour le mot décharger, débarrasser. Et c'est tout à fait cela. Dieu nous invite à nous débarrasser de nos soucis comme on se débarrasse d'un manteau trop pesant et qu'on laisse au vestiaire. Et si Pierre nous invite à laisser nos soucis au vestiaire éternel, c'est parce qu'il sait une chose d'expérience, Dieu lui-même prend soin de vous. C'est là la promesse, mais elle n'est pas au futur, elle est au présent. Dieu prend soin de vous. Dieu prend déjà soin de nous. Alors déchargez, déchargez. Et le fait de décharger n'est même pas une condition à la réalisation de la promesse. Il n'est pas écrit « si vous vous déchargez, alors il prendra soin de vous ». Non, c'est même pas une condition, c'est plutôt une conséquence. Déchargez-vous sur lui puisqu'il prend soin de vous. Transférez sur lui la charge de l'inquiétude. Alors les problèmes, il faut le rappeler, on l'a déjà fait 3 fois, mais ne disparaissent pas pour autant comme par enchantement. Parfois les problèmes disparaissent, ça s'appelle un miracle. Mais un miracle est exceptionnel. Et sinon, ce n'est plus un miracle. Et Pierre écrit à des chrétiens qui ont des problèmes et qui sont même sous le début de la persécution. Donc les problèmes restent, mais le poids de l'inquiétude peut être transféré sur Dieu, et doit l'être. Et le texte met l'accent sur un autre aspect de l'inquiétude. Il met en rapport avec l'humilité. Et le verset qui précède, que nous n'avons pas lu, mais qui précède la promesse, est important. Il parle d'humilité et il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et on pourrait continuer en disant « Vous déchargeant, pardon, je l'ai déjà dit, mais vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » Que fait-on en se déchargeant sur Dieu de tous ses soucis ? On pratique simplement l'humilité dans sa vie quotidienne. Quand on est prêt à lâcher son manteau des soucis, on abandonne en même temps la veste de notre entêtement et peut-être même notre orgueil à vouloir assurer tout seul son avenir. Autrement dit, quand on laisse ses soucis à Dieu, on abandonne en même temps notre grand souci de vouloir contrôler sa vie, avoir la main mise sur elle. Et se décharger sur Dieu, ce n'est pas juste une thérapie pour les angoissés de la vie, c'est véritablement un acte d'humilité devant Dieu. « Seigneur, je te laisse mes soucis, je te laisse le contrôle de ma vie, je te fais confiance. » Humilité et confiance. Et je termine, comme pour la première promesse, en insistant sur ce mouvement intérieur de l'âme ou de notre esprit qui ne croit pas en, mais qui croit vers, une fois qui se mobilise, une fois qui prend Dieu au mot et qui laisse son manteau de l'inquiétude au vestiaire de 2023. La troisième promesse va vous paraître un peu étrange, mais elle nous parle aussi de ce mouvement de la foi. C'est une promesse qui est liée à notre action, comme une promesse de retour, une promesse de Jésus lui-même qui nous dit que Dieu répond à nos demandes et à nos recherches. Matthieu 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez. » Parce qu'il y a des ressources derrière. Des ressources en Dieu. Il y a des ressources à disposition. Cherchez et vous trouverez. Parce que Dieu se laisse trouver. Il est proche. Frappez et l'on vous ouvrira parce qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Et j'aime bien aussi cette parole de Jésus qui nous parle de mesure, que les choses qui nous seront données avec la mesure que dont nous nous sommes servis pour donner. Une parole que Jésus nous dit et qui est en rapport en fait avec notre ouverture de cœur et donc de notre générosité. On va lire ensemble. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Autrement dit, donnez sans mesure et on vous donnera sans mesure. Une mesure bien tassée, secouée et débordante, comme la vie abondante dont Jésus nous parle aussi. Je parle de la générosité du cœur. Et si 2024 était aussi marqué par cela, par cette foi, par cette générosité du cœur, cette promesse que plus on donne, plus on reçoit. Je termine. Ces trois paroles, ces trois promesses, pour nous, communauté chrétienne du Suquet, voilà, j'ai inventé un nouveau mot, Église protestante d'Uriou, Église évangélique libre de Cannes, des promesses, celle d'une épreuve qui ne sera pas au-dessus, au-delà de nos forces, et d'une persévérance à toute épreuve, promesse d'un manteau de soucis dont on peut se débarrasser, car Dieu lui-même prend soin de nous, promesse d'un Dieu qui répond, qui se laisse trouver, qui ouvre la porte à celui qui le lui demande, à ceux qui font justement ce mouvement vers lui, cette promesse qu'on vous donnera, qu'on me donnera dans la mesure où j'aurai donné. Et donc je vous invite à saisir ces trois promesses dans le mouvement de la foi, oui, des promesses à saisir par la foi. Non pas les regarder comme une belle peinture sur un tableau dans un musée, mais à vivre dans un tableau vivant où je suis un des acteurs, où en fait l'acteur principal est notre Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, un Dieu qui tient toutes ses promesses. Et je termine par une citation de Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur allemand résistant au nazisme, mort dans les prisons hitlériennes, en 45, deux mois avant la libération, qui dit « Dieu réalise non pas tous nos désirs, mais toutes ses promesses. » Quelle est ce matin pour vous la promesse qui vous tiendrait plus à cœur ? Je vous laisse méditer pendant un morceau de harpe de Mégane. De quelle promesse allez-vous vous saisir ?